France Culture.
Et bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Barthélémy Gaillard, Gwendoline Troyano, Mélanie Chalandon, Sacha Mattei et Christelle Angers, réalisé par Sam Bakiast. Et à la technique ce matin, c'est Grégory Wallon. C'est le dernier épisode de notre série consacrée aux pressions politiques auxquelles sont soumis les fonctionnaires partout dans le monde. Nous avons parlé des dizaines de milliers de postes menacés aux États-Unis sur décision de Donald Trump, des fonctionnaires de l'autorité palestinienne décrédibilisés aux yeux des Cisjordaniens, hier des agents de l'État russe à qui on demande surtout d'être loyaux. Aujourd'hui, les fonctionnaires de l'Union européenne, trafic d'affluence et pantouflage, ici dénoncé par la médiatrice de l'Union, Émilie Orelli.
La présidente von der Leyen a rappelé aux membres de la commission qui démissionne l'obligation de respecter un délai de réflexion avant d'aller dans le privé. Ce n'est cependant pas clair s'ils enfreignent des règles en agissant ainsi, ni comment cela sera contrôlé.
La démocratie européenne est attaquée. Nous ne sommes pas au bout du chemin. Et nous allons continuer à participer à l'enquête avec d'autres institutions européennes aussi longtemps qu'il le faudra. La corruption ne paye pas.
Enrico Lolai, un ancien directeur général à la Commission chargé des transports, qui s'est fait offrir plusieurs allers-retours en classe affaires par la compagnie aérienne Qatar Airways. Et ce monsieur travaille toujours à la Commission européenne.
Enrico Lolai travaille toujours à la Commission européenne. Vous pouvez vérifier sur le site. Il est aujourd'hui conseiller politique auprès du directeur général chargé des partenariats avec les pays tiers et gagne toujours, d'après Libération, quelques 20 000 euros nets par mois. Le temps qu'avance l'enquête sur ses nombreux voyages payés par le Qatar quand il était encore à la Commission des transports, plaidant et obtenant en 2021 que la compagnie Qatar Airways ait le droit de survoler tout l'espace aérien européen, d'atterrir où elle veut et même de faire du cabotage, du transport à courte distance. Cet autre Qatar Gate touche cette fois non pas un élu, mais un fonctionnaire et démontre encore une fois combien les outils de transparence mis en place au fil des années par l'UE fonctionnent très mal. Des outils demandés pourtant par les fonctionnaires eux-mêmes, car si une poignée d'entre eux verse dans le conflit d'intérêts, une grande majorité exige au contraire plus de contrôle, de surveiller aussi les départs de certains confrères et consoeurs dans le privé. Il y a encore 3 mois, 3 cadres du département de la concurrence rejoignaient des cabinets d'avocats d'affaires étrangers. Alors comment expliquer cette proximité qui semble presque systémique entre les fonctionnaires et les intérêts privés? Comment cela est-il encadré par les institutions? Et avec quelles limites? Comment expliquer aussi que le rôle des fonctionnaires censés fournir une expertise technique se fait de plus en plus politique à mesure que l'Europe étend le champ de ses prérogatives? Pour en parler ce matin, 2 invités. Bonjour Antoine Vaucher.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, au Centre Européen de Sociologie Politique à Paris 1. Et vous avez coécrit avec Éric Monnet, c'est paru l'année dernière, l'Europe du marché à la puissance publique. Nous sommes également en ligne avec Didier Georgakakis. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue à vous. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et au Collège d'Europe à Bruges, membre de l'Institut universitaire de France. Vous avez écrit au service de l'Europe, crise et transformation sociopolitique de la fonction publique européenne paru aux éditions de la Sorbonne en 2019 et vous êtes en duplex avec nous depuis Bruxelles grâce aux moyens techniques de Pierre Benazé que je remercie. Alors Didier Georgakakis, on avait pensé au départ à intituler cette émission dans le cadre d'une série sur les fonctionnaires dans le monde, et ça, c'est un petit peu redondant de titre en titre, donc on voulait parler des eurocrates, on voulait employer ce terme d'eurocrate. Est-ce que c'est encore un mot employé par les fonctionnaires européens eux-mêmes?
Alors c'est une excellente question, parce qu'en réalité le terme d'eurocrate au départ, c'est-à-dire lorsqu'il émerge dans les années 60, est en effet plutôt un terme favorable et utilisé par les fonctionnaires eux-mêmes, ou en tout cas des gens extrêmement pro-européens. Par exemple Altiero Spinelli, le grand fédéraliste, a écrit un livre qui s'appelait « The Eurocrats » en 1966, et beaucoup de fonctionnaires européens à l'époque utilise ce terme de manière plutôt favorable. Et puis vous avez un tournant à partir du référendum de Maastricht où véritablement on va utiliser ce terme de d'eurocrate plutôt comme un stigmate, une insulte quasiment, en disant voilà, c'est des espèces de cercle de bureaucrates oligarchiques hors sol, etc. Et vous avez donc une transformation complète de la signification. Alors le terme d'eurocrate, il pose en réalité plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est qu'il organise une sorte de confusion, puisqu'en fait travaille dans le cadre des institutions européennes à la fois du personnel politique, c'est-à-dire des commissaires, des députés européens, des ministres des États membres, travaillent des gens qui relèvent de la fonction publique européenne, c'est-à-dire de la fonction publique des institutions européennes, et puis travaillent aussi, on l'oublie, mais beaucoup de gens qui sont des fonctionnaires nationaux, des diplomates, des fonctionnaires techniques qui participent à différentes échelles de la décision. Donc mon idée, c'est de dire il faut arrêter avec le terme d'eurocrate, au fond, et moi j'ai tendance plutôt à parler de champ de l'eurocratie, c'est-à-dire qu'il y a un champ de bataille entre des acteurs très différent pour le pouvoir sur l'Union.
Un champ de l'eurocratie qu'on peut explorer, dans lequel on peut naviguer un petit peu ensemble, ou plutôt se balader si on a les pieds sur terre. Didier Georgakakis, qui sont-ils les fonctionnaires de Bruxelles? Combien sont-ils à peu près? Où est-ce qu'on les trouve? À quel poste? En quelques mots.
Alors, si on s'intéresse maintenant, en effet, à la fraction des fonctionnaires des institutions européennes, c'est-à-dire véritablement la fonction publique européenne. Alors là, on a un corps relativement réduit, c'est-à-dire à peu près 40 000 personnes. Grosso modo, 26 000 travaillent, ou une vingtaine de mille, en gros, travaillent à la Commission, d'autres au Conseil de l'Union, d'autres au Parlement. Hein. Le Parlement, on se focalise beaucoup sur les députés. 700 députés, un peu plus, et on a raison, hein, c'est l'autorité politique, mais c'est quand même une administration de 8000 personnes, hein, également. Et puis, bah, il y en a dans la Cour des comptes, peut-être qu'on y reviendra, la Cour de justice et d'autres institutions.
Donc 40 000 agents, vous disiez que c'est beaucoup, mais c'est assez beaucoup, peu, c'est que c'est restreint beaucoup. Parce que c'est quand même pour 450 millions d'habitants, de citoyens européens.
Voilà, c'est ça qu'il faut bien avoir en tête. Je pense que vraiment, il faut essayer de se désolidariser des catégories d'interprétation de la politique qu'on a et qu'on a d'une certaine manière intégrée en lisant la politique nationale, parce que là, dans le cadre de l'Europe, c'est vraiment quelque chose d'assez différent. Ces fonctionnaires, en réalité, sont vraiment dédiés aux institutions, c'est-à-dire un corps qui est là pour préparer des compromis et essayer de les faire appliquer. On n'est pas du tout dans une fonction publique de mise en œuvre ou d'exécution, comme ce qu'on peut connaître dans la plupart des États membres, en réalité. Donc son nombre, effectivement, est très très réduit et dédié à ce compromis, toujours très délicat.
Et d'ailleurs, il faut distinguer les fonctionnaires européens des fonctionnaires nationaux détachés dans les institutions et qui souvent, quand ils arrivent à Bruxelles, au bout de quelques jours, trouvent en effet qu'ils ont beaucoup plus de prérogatives, qu'on leur donne beaucoup plus de responsabilités que dans leur pays d'origine. Alors, avant de donner la parole à Antoine Vaucher, peut-être encore une petite question, Didier Georgakakis, pour vraiment poser le cadre de cette discussion. Parmi les plus hauts cadres, justement, de la fonction publique européenne, est-ce que beaucoup sont à l'origine d'anciens responsables politiques, comme c'est le cas du protagoniste de la première affaire dont nous allons parler, qui est en fait la dernière affaire en date, celle de l'Estonien Erink Ololai?
Alors là, vous mettez le doigt sur quelque chose de très important. On a sorti un papier récemment avec Sophia Bordier dans la Revue française d'administration publique, qui détaille en réalité tous les profils des directeurs d'administration. Et donc, on les a d'une certaine manière tous analysés. On en sort des statistiques, etc. Alors, je ne vais pas être long là-dessus, ce serait ennuyeux. Mais vous avez raison de signaler que c'est un cas relativement unique. Un directeur général qui est un ancien ministre, c'est rarissime. Et il a véritablement un parcours qui fait que d'ancien ministre en Estonie, il rentre comme chef de cabinet de Slim Kallas, le père de l'actuelle autre représentante et vice-présidente de la commission en charge des affaires étrangères. Et donc c'est à partir du cabinet qu'il devient directeur général. Donc c'est très très rare comme parcours. Un directeur général ou une directrice générale, d'ordinaire, c'est 25 ou 30 ans de commission. Là, il y a quelques années, mais dans la fraction la plus politique, véritablement, et en ayant été ancien ministre. Et je pense qu'il faut quand même le signaler, de quoi un cas est un cas. Et celui-ci, je pense qu'il est un cas de vraiment la fraction la plus politique de cette fonction publique.
Puisqu'il a en effet été ministre de l'économie en Estonie, avant de devenir chef de cabinet du commissaire européen estonien lors de l'entrée de son pays dans l'UE en 2004, pour occuper très vite, comme vous le disiez, les fonctions de directeur général chargé des transports à la Commission européenne. Alors, est-ce qu'on peut, Antoine Vaucher, redire quelques mots de cette affaire? En fait, ça fait quelques années qu'elle s'étale dans le temps, mais on apprend d'année en année, on en apprend un petit peu toujours plus, même si pour l'instant, lui est toujours fonctionnaire européen, toujours en place, il a changé de poste. Mais la première partie de l'histoire, les premiers voyages dont on apprend qu'ils ont été payés par le Qatar quand lui était en train de négocier pour Qatar Airways avec l'Europe pour que Qatar Airways ait accès à l'espace aérien européen, le Qatar lui paye 9 voyages en classe affaires entre 2015 et 2021. Il se trouve que ces cadeaux-là de Qatar Airways, ces voyages-là, sont déclarés sur les registres de la Commission. Alors, cette première partie-là, qu'est-ce qui a failli ?
Alors, effectivement, l'histoire de ce cas de Ololai, donc directeur général de la DG Transport, en fait, c'est une des ramifications, mais une des nombreuses ramifications du cas du Qatar Gate. Je dirais une des ramifications administratives, puisqu'un des enjeux, c'est finalement, de cette enquête, c'est de faire apparaître un ensemble de stratégies d'influence, pas directement nécessairement du gouvernement Qatar, mais de différentes parties, je dirais, de l'administration qatari, pour justement peser sur la manière dont le Parlement européen, mais aussi la Commission européenne, dans leur pouvoir de régulation, ou aussi dans leur pouvoir en quelque sorte d'interpellation, vont traiter le cas du Qatar. Donc là, effectivement, ce qui apparaît, c'est en fait dans son cas particulier, c'est en fait une sous-déclaration. De ces voyages, une sous-déclaration de ces voyages qui ont été payés par le Qatar ou par Qatar Airways.
Il en a déclaré 9, il y en a eu plus de 25.
Voilà, au moment où dans le cadre où haut fonctionnaire, et on va peut-être en parler, et justement au cœur du pouvoir de régulation des transports, c'est-à-dire des conditions dans lesquelles Qatar Airways peut accéder au marché aérien européen, et donc évidemment émerge la question du conflit d'intérêts dans ce cadre-là. En fait, ce qu'on voit là, parce que peut-être pour refaire le lien avec ce que disait Didier Jakakis à l'instant, c'est effectivement une administration européenne qui a pour caractéristique d'être un peu une administration de mission. C'est-à-dire, si on devait la mettre dans des catégories françaises, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de fonctionnaires d'exécution sur le terrain. En fait, les administrations d'exécution de la fonction publique européenne, ce sont les administrations nationales, en quelque sorte. Mais en revanche, c'est une administration qui a des pouvoirs de régulation de ce grand marché européen qui sont considérables. Régulation en matière de numérique, en matière de produits financiers, en matière de produits chimiques. Donc, on la voit bien, effectivement, là, à un nœud, effectivement, extrêmement important pour l'accès au marché européen. Bon, cette micro-histoire de ce fonctionnaire, enfin de ce très haut fonctionnaire, effectivement, elle nous situe immédiatement, effectivement, dans les stratégies d'influence qui visent à orienter, en quelque sorte, ce pouvoir de régulation dans un sens, en l'occurrence, des stratégies étatiques ou quasi-étatiques du Qatar.
Mais parce que pour vous, c'est vraiment une branche d'une même affaire, c'est-à-dire ce Qatargate qui d'abord concernait des élus. Là, on est sur une branche administrative, c'est un fonctionnaire qui est concerné. Ce sont les mêmes interlocuteurs au Qatar, d'après vous, c'est une même affaire avec plusieurs volets.
Là-dessus, je dois avouer mon incompétence.
Parce qu'on de toute façon, l'enquête est en cours.
En fait, l'enquête est en cours. On a essentiellement des fuites, quelques travaux de journalistes d'investigation. Donc, je ne saurais pas exactement faire le lien. Mais en fait, néanmoins, voilà, du point de vue de ce qu'on peut dire de cette position-là, je pense qu'elle est effectivement dans un nœud de régulateur, en quelque sorte. Dans le cas du Parlement européen, le cas plus politique, il s'agissait d'éviter que le Parlement européen adopte des résolutions critiquant les conditions dans lesquelles la Coupe du Monde avait été organisée. Si vous vous souvenez que c'était à ce moment-là, Coupe du Monde de football. Dans le cas de ce fonctionnaire, c'est un peu une autre histoire, puisqu'il s'agit du pouvoir de régulation du marché aérien européen.
Ce qui est un énorme pouvoir, en effet, aux mains d'un fonctionnaire, un très haut cadre de la fonction publique européenne, lui-même ancien ministre. En Estonie, alors vous l'avez bien dit, on rappelle rappelle qu'au départ, quand le média états-unien Politico, et sont surtout des journalistes américains états-uniens qui ont commencé à employer ce terme d'eurocrate, d'ailleurs, me semble-t-il, Didier Georgakakis, mais quand Politico sort l'affaire en 2021, je crois, au départ, il est question de 9 voyages, et encore une fois, lui se défend en disant, mais j'ai signé le registre, je les ai déclarés comme cadeau de la Qatar Airways Company. Ça veut dire que même si, en fait, il a sous-déclaré et qu'il y a eu beaucoup plus de voyages que ça, il a quand même déclaré 9 voyages et que ça n'a pas posé de problème, Didier Georgakakis. Alors, qu'est-ce qui a failli?
C'est compliqué à dire. Vous avez là, il faut, je pense, stratifier un peu la question. Il y a la question d'abord du Qatar, qui est aussi une question d'ordre géopolitique avant d'être économique. Et on sait bien, et différents États membres, etc., des équipes de football, etc., sont aussi liés effectivement à des investissements qatari. Donc il y a une question qui est une question géopolitique, parce que c'est un pays qui souvent a une voie de médiation au Moyen-Orient.
Bon, oui, après, ça on l'a bien abordé, voilà, dans Culture Monde à plusieurs reprises, mais sur vraiment la question des institutions et de leur fonctionnement, et en l'occurrence de leur dysfonctionnement.
Ben, si vous voulez, là, je pense qu'on s'arrête sur quelques cas. Si on regarde l'histoire récente, justement, des processus de régulation, on a, depuis les années 2000, un empilement, en fait, de règles, de mesures qui sont prises, etc. C'est même à un point, vous avez, mais je crois qu'on l'entendra tout à l'heure, Hélène Michel, vous avez un très bon papier qui a été fait dans la Revue française d'administration publique, qui montre que plus on empile les règles, plus au fond l'administration a du mal à suivre. Et là, vous avez eu la semaine dernière dans Politico, peut-être vous avez suivi ça, un député européen qui est un peu à la pointe, précisément qui s'appelle Daniel Freund, qui est à la pointe du combat justement pour plus de transparence, pour plus de régulation, a tweeté que c'était une excellente mesure, que les règles de transparence précisément étaient en train de s'accroître depuis le 1er janvier, puisque vous le savez, le personnel administratif et politique doit rendre compte maintenant du contenu des réunions qu'il a avec le personnel extérieur. Bon, Daniel Freund s'en réjouit, et tout de suite il a un message d'un fonctionnaire qui lui dit très bien, mais qui va gérer ça? Et effectivement, ce que montrent les analyses là-dessus, c'est qu'à la fois évidemment on peut être que d'accord avec un renforcement des règles, et en même temps ça crée une sorte de nouveau maquis, si vous voulez, qui rend les choses finalement assez compliquées. Alors, quel intermédiaire trouver entre cet idéal normatif et ces conditions pratiques de réalisation? Là, je pense que il faut y réfléchir. Peut-être, Antoine, d'ailleurs, Vaucher, oui. Tu as des choses là-dessus.
Antoine Vaucher, vous avez fait un signe.
Oui, alors, il y a plusieurs... Oui, bien sûr. Bon, là, je suis tout à fait ce que dit Didier Georgakakis, c'est-à-dire, effectivement, cette législation sur la transparence qui est, en fait, s'est développée depuis le tout début des années 2000, a été, en quelque sorte, l'outil de politique publique par laquelle on a essayé de régler cette question de la déontologie de l'administration publique européenne et de la politique européenne. Et effectivement, on a empilé les législations en quelque sorte réactives. Chaque fois, à la suite d'un scandale, on a essayé en quelque sorte de cicatriser au plus vite, hein, comme on l'a fait après le Qatargate avec des petites mesures. On a un empilement effectivement de législation sur la transparence, avec un objectif qui est monumental en quelque sorte, c'est-à-dire mettre dans une bulle de verre en quelque sorte le législateur et l'administrateur européen, donc avec quelque chose qui paraît pratiquement en réalité impossible, mais ça s'accompagne dans le même mouvement de très peu de pouvoir administratif de contrôle, c'est-à-dire qu'en fait cette transparence, ce sont des obligations de déclaration des réunions des commissaires ou des très hauts fonctionnaires, obligations de déclaration des intérêts, obligations de déclaration de ces ambitions de pantouflage, par exemple, etc. Ces obligations de déclaration, en réalité, bien effectivement, elles ne sont pas vérifiées. Il n'y a pas d'administration qui est capable de suivre en réalité véritablement ça. Et puis, on y reviendra, les comités qui sont chargés de suivre, voilà, à cette question déontologique, ce sont des comités en général internes à ces institutions, internes à la Commission, internes à l'administration du Parlement ou à la BCE, Banque Centrale Européenne. En général, qui ont une vue, qui ont tendance en quelque sorte, je dirais, à sous-estimer, je dirais, l'enjeu du conflit d'intérêts.
Est-ce que c'est le cas, par exemple, Didier Georgakakis, de l'OLAF, cet Office antifraude de l'Union Européenne, qui a été chargé de l'enquête sur ce nouveau Qatargate administratif, on va dire, sur ces voyages. Alors, je rappelle qu'il s'agissait de 25 voyages. Il y en a eu 25 qui n'ont pas été déclarés, qui étaient parfois avec sa femme, à ce monsieur, et sa fille, avec payé également toutes les dépenses annexes de type spa ou session shopping, comme c'est écrit dans les documents. Il est allé à Beyrouth, au Maroc, en Australie, toujours payé par Qatar Airways. L'OLAF avait été saisi, n'a pas, de son côté, saisi le parquet européen pourtant chargé de veiller aux intérêts financiers de l'Union européenne. Il a fini, je crois, si j'ai bien compris, par s'auto-saisir, mais en tout cas, on a beaucoup reproché à l'OLAF d'avoir beaucoup tardé. Est-ce que le patron de l'OLAF est un fonctionnaire européen, Didier Georgakakis, le Finlandais Ville Itälä?
Alors, la question de l'OLAF, là encore, je pense qu'il faut la mettre dans une perspective un peu historique, parce que, d'une certaine manière, l'OLAF est le sous-produit de la crise qui a conduit à la démission sans terre, qui date de la fin des années 90. Vous vous souvenez, il y avait tout un scandale autour d'Edith Cresson.
Non, allez-y.
Pardon de cette perspective historique qui nous fait passer un peu pour des dinosaures, mais qui permet quand même de comprendre cette dynamique-là. Donc, la Commission européenne a été forcée de démissionner parce qu'il y avait eu un ensemble d'affaires, notamment liées à Edith Cresson et d'autres commissaires. Et donc, il y avait une unité qui avait été créée sous Delors, qui s'appelait l'UCLAF, pareil, le AF et antifraude, qu'on a décidé vraiment de renforcer. Mais quelle est la fonction principale de cette organisation? Parce que là encore, on se focalise sur un ou deux cas, il faut le faire. Hein. Mais la fonction principale de cette organisation, c'est l'essentiel de la fraude. Il réside en fait dans l'usage des fonds communautaires qui est fait au sein des pays. C'est tout ce que disait tout à l'heure Antoine Vaucher en disant la fonction publique d'exécution, c'est la fonction publique des États membres. Et le gros problème qui se pose pour l'Union, c'est effectivement à partir du moment où des budgets européens sont engagés dans les États membres, est-ce qu'ils sont bien utilisés ou pas. Et là, on a vu dans différents pays, et je vais pas nommer ces pays, mais qu'il y a un usage clientéliste des fonds européens, un usage politique, etc. Et puis, c'est le cas également à l'extérieur. Donc, si vous voulez, l'OLAF est un organisme dont l'essentiel des forces, en réalité, se concentre davantage sur l'usage des fonds, qui là représentent des sommes tout à fait importantes, plutôt que tourner vers l'interne.
Alors, Antoine Vaucher, qui est le vrai contre-pouvoir dans cette affaire, ce sont les parlementaires européens.
L'espace d'interpellation peut être le Parlement européen, mais effectivement, ce qu'on a pu voir, par exemple, dans le cas du Qatargate, c'est que les suites qui ont été données au Parlement européen ont été assez modestes, et il y a eu une sorte d'accord entre les groupes politiques pour garder cette question plutôt de côté, puisqu'en fait, il n'y a jamais eu de commission d'enquête parlementaire sur le Qatargate. Hein, c'était revendiqué au tout début, mais ça n'a jamais eu lieu. Il y a un petit espace d'interpellation, je dirais, autour d'ONG, anticorruption.
Et de la médiatrice dont on parlera dans le focus.
Et évidemment de la médiatrice, les deux s'appuyant l'un sur l'autre. Je pense à Transparency International, à Corporate European Observatory, qui justement font usage de ces données de la transparence pour construire des cas, pour justement rappeler à l'ordre. Mais je voudrais dire quand même que cette question du conflit d'intérêts, justement, bon, elle est faiblement établie comme un enjeu de politique publique au niveau européen. Il faut quand même voir que le pouvoir administratif européen, c'est quand même construit historiquement sur des relations sociales, je dirais, routinisées avec les groupes d'intérêt, avec les fédérations de représentants d'industrie, parce que c'est comme ça que s'est construit le pouvoir de cette administration vis-à-vis des États membres, vis-à-vis des gouvernements. Donc il y a quand même dans cette histoire, effectivement, des relations qui ont été bien montrées, par exemple, par Sylvain Laurence, dans un bouquin qui s'appelle « Les courtiers du capitalisme », qui montre bien, justement, ces relations collusives qui ont une histoire longue, qui font que la question du conflit d'intérêts a quand même structurellement du mal à émerger comme un problème public. Voilà. Sans parler, bien sûr, de ce petit espace public des ONG anticorruption qui est tout de même relativement faible et, comme je vous le disais, a très peu de relais au Parlement finalement. À part peut-être effectivement le cas de ce Daniel Freund, ancien de Transparency International, qui est maintenant élu vert au Parlement européen.
Alors on a beaucoup de cas à évoquer et pas seulement ceux du conflit d'intérêts. Il y a ce qu'on appelle le pantouflage aussi, tous ces fonctionnaires qui sont passés du public au privé dont je voulais vous faire parler. Mais peut-être une question un peu plus générale, Didier Georgakakis, qui rejoint ces deux sujets. Sont-ils si mal payés, ces fonctionnaires européens, qu'ils doivent soit se faire offrir leurs vacances, soit aller chercher du travail dans le privé ?
Bon, alors là aussi, peut-être plusieurs choses. La première, pour rebondir sur le débat précédent, c'est de dire que tout ça a quand même un effet. Si vous regardez aujourd'hui la lettre de mission du commissaire en charge de l'administration, il doit remettre à plat toute l'architecture antifraude. Alors, il faudra voir qu'est-ce que ça veut dire au-delà du message. Je veux dire, est-ce qu'on est simplement ici dans la communication ou est-ce que on est dans quelque chose qui va faire bouger un petit peu les lignes, mais il est clair que ça fait partie des choses qui sont, il y a deux points de sa lettre de mission très très fortement marqués sur ces questions-là. Donc pour dire qu'on est vraiment dans le processus là, d'une certaine façon, il faudra voir ce que tout ça va donner. Sur la question de, là encore, la plupart des fraudes, je pense qu'il faut les situer. C'est assez rare qu'un directeur général soit pris la main dans le sac, là encore, parce que il est normalement protégé par son statut, c'est-à-dire que c'est une carrière longue, permanente, qui fait que, grosso modo, l'intérêt, si vous voulez aller voir ailleurs, normalement est assez faible. Il en va tout autrement pour le personnel politique. Le personnel politique qui, par définition, n'est pas un personnel permanent. Alors, je vous prends un exemple. La dernière
très rapidement. S'il vous plaît, parce que le temps file et on n'a plus beaucoup de temps pour évoquer toutes les autres affaires. Allez-y.
Il y a eu un scandale en 2011, là encore, pour situer les choses, où un média britannique avait promis une enveloppe de 100 000 euros à des députés. Alors, ils ont sollicité 60 députés et il y en a 3, effectivement, sur les 60 qui ont répondu. Et là encore, lorsqu'on regarde, les 3 furent des anciens ministres. Donc, il faut vraiment à chaque fois essayer de spécifier, je suis pas sûr que le lieu de la fraude soit dans l'administration publique principalement.
C'est comme le président de la Cour des comptes européenne qui est épinglé. Alors c'est une autre affaire, mais ça rejoignait la question des salaires que je vous posais. En fait, les salaires sont quand même très intéressants dans la fonction publique européenne. Plus on monte les échelons, le maximum c'est à peu près 21 000 euros net par mois, et l'un des plus gros salaires de l'institution publique, de la fonction publique européenne, c'est le président de la Cour des comptes européenne qui est à 21 000 euros par mois, qui lui est épinglé aujourd'hui pour un logement fictif, en tout cas une sorte de boîte aux lettres qu'il a créé. Il a, pour le dire très vite, il a pris 2 colocs qui sont le vice-président de la Cour des comptes et un autre. Ils ont loué à 3, même 4 ou 5, un logement à Luxembourgville où ils sont censés résider toute l'année dans le cadre de leur fonction. En fait, ils n'y sont jamais, ils y sont peut-être une fois par semaine. Ils touchent quand même la prime qui est 15% à peu près de leur salaire. Ils touchent la prime pour se loger à Luxembourgville. Et lui, pareil, c'est un ancien élu. En fait, il est aussi élu, il est très actif dans la CDU en Allemagne. Vous vouliez dire quelque chose à ce sujet, Antoine Vaucher ?
Oui, alors sur l'affaire de la Cour des comptes, je botterai en touche parce que je ne connais pas très bien le dossier, qui est extrêmement complexe par ailleurs. Mais pour rebondir,
oui, je l'ai vraiment résumé à gros.
Non, pas du tout. Mais c'est juste que, effectivement, ça a beaucoup de ramifications. Mais moi, je rebondirai un peu sur ce que vient de dire Didier Georgakakis, avec qui je suis d'accord. En même temps, je pense que cette frontière entre l'administration et le politique est peut-être pas aussi nette aujourd'hui du point de vue du conflit d'intérêts, ou en tout cas du risque du conflit d'intérêts. Il me semble qu'aujourd'hui, l'administration... Enfin, il y a la fonction publique classique qui est sous statut, effectivement, dont on vient de parler. Mais il y a une multiplication aujourd'hui des statuts contractuels, en réalité, notamment tout autour des agences de régulation, c'est-à-dire, en fait, l'Autorité européenne du médicament, l'Autorité européenne de la santé alimentaire.
Ils viennent pour des missions.
L'Autorité européenne bancaire, etc., qui viennent pour des missions, qui ont des statuts courts et qui ont aussi des règles de conflit d'intérêts ad hoc, parce qu'en fait, chacune de ces agences, enfin, c'est peut-être un des enjeux, il n'y a pas de de définition unifiée de ce que c'est que le conflit d'intérêts à l'échelle européenne. Chacune de ces agences travaille avec sa propre ses propres standards en quelque sorte, et voilà, avec ces statuts courts qui font que, ben voilà, il y a beaucoup plus de circulation autour du monde de ces agences là.
Ça, c'est vrai que il n'y a pas de consensus, Didier Georgakakis, sur ce qu'est un conflit d'intérêts au sein de la fonction publique européenne. Manifestement, on avait pu le voir lors de l'affaire Fiona Scott Morton, quand il y a 2 ans, elle avait été nommée comme chief economist, comme on dit, maintenant on parle en anglais dans les institutions européennes, chef économiste à la direction générale de la concurrence, alors qu'elle a travaillé pour Microsoft, Apple, entre autres. C'est une états-unienne. Et là, il y en a plein qui a dit c'est super, elle nous apporte des compétences, et d'autres qui avaient dit c'est un conflit d'intérêts énorme. Et d'ailleurs, elle avait fini par renoncer à ce poste.
Alors, vous avez parfaitement raison. Et là, vous mettez le doigt sur quelque chose d'assez crucial pour l'Europe. C'est qu'en fait, culturellement, il y a des traditions vis-à-vis de la transparence, du conflit d'intérêts, qui sont extraordinairement différentes d'un pays à l'autre. On dit beaucoup entre le Nord et le Sud, etc. Mais c'est un peu plus complexe que ça, en réalité. Politiquement, c'est le cas. Les partis politiques ne sont pas du tout d'accord. Je pense que les modalités, l'agir du PPE n'est pas celui des Verts. Et donc, à la fin, vous avez effectivement une grande confusion sur les concepts. Après, je pense qu'il faut revenir sur des bases un peu structurales, si vous voulez. L'affaire Morton, c'est aussi l'affaire de la fascination pour les États-Unis. De la même manière, comme je pense que le disait très bien Antoine Vaucher, ça fait 20 ans de réforme administrative qu'on fait tout pour externaliser une partie des missions de l'administration auprès de consultants, auprès d'agences extérieures où vous avez des contractuels, etc. Et donc on construit d'une certaine manière, par ces politiques depuis une vingtaine d'années, une forme de soumission, au moins culturelle, au privé.
Mm-hmm. Oui, pardon, je croyais que j'avais pas compris. Parce que l'inverse, c'est vrai, c'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de fonctionnaires européens qui partent vers le privé, c'est même plutôt la grande majorité des cas. Il y a un autre cas récent dont on voulait que vous nous parliez aujourd'hui, c'est celui de Henrik Morsch, qui est directeur du département de la concurrence de la Commission européenne. Il est parti il y a un an vers un cabinet d'avocats privé new-yorkais, donc ça a fait grand bruit, grand débat à Bruxelles. Le cabinet d'avocats, lui, dans le communiqué où il annonce sa prise, se félicite de ce que Henrik Morsch possède une grande expérience dans le traitement des affaires de fusion. Certes, ça ressemble à quand Goldman Sachs s'était réjoui de la profonde compréhension de l'Europe qu'allait lui apporter José Manuel Barroso quand elle a débauché en 2016 l'ancien président de la Commission européenne, tollé au sein de l'Union européenne. 160 000 fonctionnaires avaient signé une pétition, ici relayée par le président de l'Union syndicale fédérale.
Nous avons été choqués d'apprendre que l'ancien président de la Commission européenne avait accepté un engagement auprès d'une banque qui a joué un rôle très particulier pendant la crise de l'euro. Et ce n'était pas vraiment l'image que nous voulions donner quelques jours après la décision du Brexit. Le président Juncker a annoncé s'adresser à cette commission une fois notre action lancée. Ce n'est pas spontanément qu'il a pris cette décision. C'est donc déjà un premier signe que quelque chose bouge. Et puis le président Schulz, le président du Parlement européen, nous a dit aujourd'hui que la commission des pétitions du Parlement européen allait donner un avis sur le contenu de cette pétition.
Bon, le contenu de cette pétition, c'était vraiment plus de contrôle de ces passages du public au privé, une pétition signée par 160 000 fonctionnaires, dont 70 000 Français. D'ailleurs, je ne sais pas si à l'époque, Antoine Vaucher, ça vous avait interpellé. En tout cas, qu'est-ce qui a été fait depuis?
Déjà, je pense que vous avez cité 2 cas qui ont des éléments communs. Le cas de la nomination ratée de cette chief economist, comme vous disiez, Scott Morton, et le cas du pantouflage Barroso. Pourquoi ? Parce que c'est 2 cas qui vont créer une controverse assez forte entre 2 conceptions finalement du rapport public-privé autour de l'administration européenne. Dans le cas de Scott Morton, finalement, tout le processus de sélection de cette américaine qui avait travaillé pour différents intérêts de multinationales du numérique américaines, tout le processus de sélection avait estimé que c'était la meilleure. C'était la meilleure parce qu'elle était la plus susceptible de resserrer le partenariat public-privé et de renforcer du coup l'efficacité de la régulation européenne et la compétitivité de l'Union européenne, etc. Donc là, il y avait une idée très forte dans le pôle économique, je dirais, de la Commission européenne, que, eh bien, au contraire, le partenariat public-privé, c'est une condition de l'efficacité de l'administration européenne.
Même s'il devait se douter que ça allait poser problème, parce qu'il n'avait pas donné son nom jusqu'au dernier moment. Enfin, ça a été.
C'était dans le tuyau qui a de la sélection. Évidemment, ça n'a pas été tellement soulevé. Mais quand c'est rentré, je dirais, en plein air, en quelque sorte, en plein air politique, notamment autour du Parlement, des chefs d'État et de gouvernement, là, une autre définition de l'administration européenne qui est plus proche de l'idée d'un gouvernement et donc ou d'une puissance publique et donc d'une séparation qui doit être faite d'une certaine manière pour avoir une souveraineté européenne ou pour avoir une autonomie stratégique européenne, ce qui suppose effectivement de ne pas pouvoir nécessairement recruter quelqu'un qui vient directement de ceux qui seront ensuite régulés, c'est-à-dire des multinationales du numérique. Donc le cas Barroso, c'est pareil aussi. D'une certaine manière, on a vu émerger deux conceptions de l'administration publique, celle qui est mobilisée dans la pétition que vous avez donc avec l'idée qu'il y a une séparation à construire, et au contraire celle de Barroso qui considère que ces circulations sont au contraire, eh bien, d'une certaine manière, le fait d'une administration moderne qui est bien ancrée finalement dans les compétences qu'il faut pour être un régulateur et l'expérience justement du privé.
Et là encore, Didier Georgakakis, qu'est-ce qui a été entrepris depuis ? Est-ce que par exemple des règles ont été établies selon lesquelles on n'aurait pas le droit, selon le poste qu'on a employé, j'imagine que c'est du cas par cas, mais d'aller chez telle ou telle ensuite entreprise privée avec lesquelles on a pu avoir des liens avant lors de négociations, ou respecter un délai aussi, c'est ce qu'on entendait au tout début de l'émission, la médiatrice de l'Union européenne dire, une réflexion sur un délai auquel se conformer avant d'accepter une offre d'emploi.
Oui, c'est ce qui est dit. Je pense que c'est ce qui est fait dans la plupart des cas. Et en même temps, on voit bien qu'il y a des exceptions régulièrement. Le cas de Thierry Breton en ce moment en est éventuellement un exemple. Je voudrais juste revenir sur la question de d'Emmanuel Barroso, parce qu'en fait, il faut aussi s'interroger sur pourquoi ce cas nous fait tant de mal. Et je pense que c'est parce que d'une certaine manière, le cas de Barroso dit aussi la vérité du pouvoir. C'est-à-dire qu'au fond, les institutions publiques ne sont peut-être plus aujourd'hui au sommet du pouvoir par rapport à Goldman Sachs, par rapport à la Big Tech ou des grands cabinets d'avocats. Et donc lui, il est dans une forme de continuité au fond.
C'est un élu, hein, c'est pas un fonctionnaire.
C'est un élu. Il ne peut pas aller effectivement à l'OTAN, etc. Donc il continue d'une certaine manière. Et là, il nous donne à voir quelque chose qui est proprement, effectivement, insupportable, parce que ça met en cause notre illusion ou notre fétichisme à l'égard de la politique, qui consiste à penser que l'ordre politique est celui qui s'impose à tous. Je pense que tout ce qu'a dit Antoine Vaucher tout à l'heure, et ce que j'essaye de dire aussi dans mon travail sur l'impact du management, et, au fond, de la valeur privée qui s'impose dans l'administration, nous montre que c'est quand même de moins en moins le cas. Et là, il y a le problème.
Et un tout petit mot vraiment très rapide pour vous demander si il y a des syndicats de la fonction publique européenne, et en tout cas je pense qu'il y a des syndicats de la fonction publique européenne, mais qui sont leurs interlocuteurs quand ils doivent s'adresser au patron entre guillemets pour relayer les revendications des fonctionnaires, qui est leur interlocuteur, qui est l'employeur de ces fonctionnaires européens?
Alors, leur interlocuteur direct, c'est, en tout cas pour les syndicats, chaque institution a ses syndicats, l'interlocuteur pour les syndicats de la Commission européenne, c'est le commissaire en charge de l'administration et des ressources humaines. Donc aujourd'hui, Piotr, c'est Raffin, avec lui. Et puis quand il y a une question de négociation salariale, alors là, l'employeur, c'est le conseil. Parce qu'il faut parler de ça aussi, c'est-à-dire la question du frein budgétaire, et de ce qu'il entraîne dans ses conséquences.
Les syndicats qui sont par ailleurs tout à fait conscients de ce que ces affaires, quand elles sortent, font énormément de mal à la profession, à la fonction publique européenne. La médiatrice joue aussi un rôle très important pour exiger des institutions qu'elles rendent des comptes aux citoyens européens. Émilie Oreilly, qui a effectué 2 mandats à ce poste et qui se retire en février. On en parle. Allez, après un peu de punk suédois, tiens.
Punishment.
troglodytes des Viagra Boys, un groupe de punk européen qui sort un album en février. Alors aucun lien avec notre sujet du jour, si ce n'est peut-être la décision qu'avait prise il y a maintenant plus de 20 ans le régime d'assurance maladie des fonctionnaires européens de leur rembourser le Viagra, ce qui avait suscité des débats à Bruxelles car ce régime d'assurance maladie était alors déficitaire pour la première fois de son histoire. Tiens, Viagra d'ailleurs, Antoine Vaucher, c'est produit par Pfizer, le laboratoire avec lequel Ursula von der Leyen avait échangé tant de SMS en pleine épidémie de Covid. On a appris hier qu'elle échappait aux poursuites. Qu'est-ce qu'on peut en dire en quelques mots ?
Bah, on peut en dire d'une certaine manière qu'on voit là la visée d'efficacité hein, qui était celle de sous pression sans doute hein, d'ailleurs des États membres hein, de Ursula von der Leyen au moment de construire les contrats pour la vaccination, organiser la campagne de vaccination. Donc là aussi on a effectivement peut-être quelque chose qui est l'aboutissement de tournant néo-managérial dans l'administration où effectivement il faut marquer l'efficacité de l'administration et effectivement les procédures de passation de marché public passant effectivement du coup au second plan.
Surtout, voilà, on pourrait en parler longtemps, mais c'est tombé hier. Donc, le fait qu'Ursula von der Leyen échappe aux poursuites pour des raisons très précises qu'on n'a pas le temps de développer, mais c'est parce que la plainte de celui qui avait porté l'affaire en justice a été déclarée irrecevable parce qu'il n'a pas pu prouver le préjudice personnel subi. Ça ne veut pas dire, en effet, qu'il n'y a pas eu ces échanges de SMS et toutes les questions que ça peut poser.
Bah, ce qu'on peut juste dire au passage, c'est qu'on retrouve une difficulté de ce contrôle déontologique et de corruption européen qui dépend là, comme dans le Qatargate, en fait, de la justice belge. Puisque c'est devant la justice belge qu'une affaire de la Commission européenne est poursuivie. Et c'est là, évidemment, une limite de ces dispositifs de contrôle européen.
Voilà. Vous écoutez Culture Monde, c'est le dernier épisode de notre série sur les fonctionnaires. Aujourd'hui, ceux de l'Union européenne et les conflits d'intérêts qui subsistent malgré les outils de contrôle mis en place et malgré le travail de la médiatrice de l'Union européenne.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Nous avons 654 membres votants, 51 blancs, 603 votes exprimés. La majorité absolue est à 302. Teresa Anjinho a obtenu 334 voix. Par conséquent, Madame Teresa Anjinho a obtenu la majorité des suffrages exprimés. Je la déclare élue médiatrice européenne et je la félicite pour son élection.
La nouvelle médiatrice européenne et portugaise Teresa Anjinho, élue ici le 17 décembre, elle prendra ses fonctions en février en remplacement de l'Irlandaise Émilie O'Reilly à la tête d'une institution qui se bat pour que l'administration européenne reste crédible et sans reproche auprès des citoyens européens. Bonjour Hélène Michel.
Bonjour Julie Gacon.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeure de sciences politiques à l'Université de Strasbourg, membre du laboratoire SAGE, ça veut dire Société Acteur Gouvernement en Europe. D'abord, très simplement, quel est le rôle du médiateur, en l'occurrence de la médiatrice européenne ? Est-ce que son rôle est inscrit dans quelques textes européens ?
Oui, bien sûr. Alors, la médiatrice européenne est la titulaire du poste de médiateur européen, qui est une institution. Donc, elle n'est pas toute seule. L'institution concerne à peu près 70 administratifs, donc qui vont travailler dans le but d'une double mission, hein, à la fois aider les citoyens dans leur relation avec l'administration européenne et promouvoir la bonne administration. Alors, cette institution avait été créée lors du traité de Maastricht en 1992 dans le volet citoyenneté européenne. Et l'objectif était d'octroyer des droits aux citoyens face à l'administration, hein, aux côtés, de, par exemple, d'autres droits comme les droits de vote ou d'éligibilité. Et le médiateur donnait ainsi la possibilité aux citoyens de se plaindre s'ils étaient victimes d'une mauvaise administration. Donc c'est toujours une voie de recours amiable qui a été aussi étendue aux personnes morales, hein, que sont les entreprises et les associations. Donc très concrètement, un citoyen qui est mécontent du traitement que lui fait l'administration européenne,
lui adresser
après avoir essayé d'obtenir gain de cause, eh bien, il peut saisir le médiateur européen.
Hélène Michel, est-ce que vous m'entendez ? Vous ne m'entendez pas. Est-ce qu'on sait à peu près ou en moyenne combien de plaintes elle reçoit chaque année et de combien elle se saisit ?
Oui, oui, bien sûr. Alors, à peu près par an, elle reçoit 2300-2500 plaintes en moyenne chaque année. Alors, une grosse partie de ces plaintes sont hors mandat, c'est-à-dire ne concernent pas les interactions avec l'administration européenne. Et donc, à ce moment-là, le médiateur européen renvoie sur des administrations nationales, par exemple les défenseurs des droits, sur d'autres manières de traiter les demandes des citoyens. Et puis, sur une partie qui concerne le mandat de la médiatrice, hein, alors là, la médiatrice ouvre des enquêtes pour à la fois aider le citoyen, mais aussi se saisir de ce cas particulier pour essayer de promouvoir des bonnes pratiques. Et toujours essayer de renforcer auprès de l'administration la promotion, le maintien de principes du service public. Donc, par exemple, l'intégrité, l'objectivité, la transparence, hein, de manière à ce que l'administration s'améliore et corresponde à ses standards. Ça, c'est vraiment sa deuxième mission, je dirais, d'aider à une bonne administration. Et là, elle peut agir indépendamment des plaintes des citoyens, hein, qui sont importantes dans son travail, mais elle peut s'auto-saisir d'un sujet, oui, en fonction de l'actualité. Et on a parlé tout à l'heure du Qatargate. Ben, à l'occasion du Qatargate, elle s'était saisie de ce sujet et avec le Parlement européen avait essayé d'élaborer des règles éthiques. Et encore, une fois que le Parlement avait modifié son règlement intérieur, la médiatrice a rendu un avis pour à la fois regarder comment ces règles allaient pouvoir être mises en œuvre et s'interroger aussi sur les modalités de la procédure, hein, pour élaborer ces règles éthiques.
Alors cette médiatrice, Émilie Oreilly, qui a été élue en 2013, elle a eu cette stratégie qui vise à communiquer abondamment sur les enquêtes qu'elle lance, ce qui a contribué sur certaines affaires à l'aider dans ses rapports de force avec les institutions, parce que c'est aussi un rapport de force. Sur l'affaire Henrik Morsch que l'on citait tout à l'heure, elle a demandé à ce que soient publiées dans le détail les restrictions imposées au travail de l'ancien directeur du département de la concurrence de la Commission chez son nouvel employeur. Et là, il se trouve que le commissaire européen en charge des ressources humaines a refusé de répondre à sa sollicitation. Est-ce que les institutions qui refusent de lui répondre doivent le justifier, Hélène Michel?
Alors, dans ces enquêtes, elle prend, à la suite de ces enquêtes, hein, le médiateur prend des décisions et fait des recommandations auprès des administrations, et elle n'a pas de pouvoir de contraindre cette administration, donc cette institution. Donc, elle peut faire des recommandations, et c'est une forme d'influence politique, hein, de faire une pression politique. Et pour cela, elle est un peu aidée par différentes ONG dont on a déjà parlé, qui promeuvent la transparence, qui essayent de modifier ou de faire modifier des règles. Mais si une administration ne veut pas, il n'y a pas d'obligation de suivre la recommandation du médiateur.
Et les citoyens ont des recours si l'institution refuse de répondre à cette sollicitation. Ils peuvent s'en remettre ensuite à la Cour de justice de l'Union européenne. Et là, en général, il est fait cas du travail de la médiatrice. Ça peut aider à faire avancer un dossier. Hélène Michel, peut-être pour conclure, les médiateurs sont élus par le Parlement européen qui vote aussi son budget chaque année. Que disent les derniers votes, et notamment celui de décembre dernier, sur l'attachement des parlementaires à ce travail-là de transparence? Parce qu'on imagine qu'elle s'est aussi fait beaucoup d'ennemis, Émilie Oreilly.
Alors, des ennemis, mais en même temps, elle est assez soutenue, parce que l'administration a finalement, et dans sa grande majorité, les fonctionnaires européens ont plutôt intérêt à ces recommandations parce que ça permet d'avoir une administration plus éthique, qui est plus impartiale, qui renvoie aussi au principe de l'intérêt général. Et les enquêtes mettent aussi en évidence parfois des manques de moyens pour mener à bien ces réformes et répondre à toutes ces injonctions des règles éthiques. Donc, elle n'est pas aussi crainte que cela. Au contraire, elle peut être aussi assez sollicitée et c'est un peu ambivalent ce rôle-là.
Oui, quand en 2019, elle avait été réélue de justesse, Émilie Oreilly, il y avait des témoignages qui disaient avoir reçu des mails qui cherchaient à la décrédibiliser, une véritable campagne de dénigrement, sans doute de la part de ceux qui se sentent menacés par son travail. En tout cas, cette Émilie Oreilly, donc irlandaise, sera remplacée en février par une portugaise qui est experte indépendante dans les droits de l'homme et chercheuse universitaire, Teresa Anillo. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Hélène Michel, professeure de sciences politiques à l'Université de Strasbourg et membre du laboratoire Antoine Vaucher, un petit mot sur ce rôle de la médiatrice et surtout les relations de confiance ou pas qui existent avec les fonctionnaires.
Bah effectivement, O'Reilly a fait ses deux mandats, a donné une visibilité publique à cette institution là du médiateur, qui a effectivement très peu de moyens en réalité d'enquête, mais qui a une capacité, je dirais, de documentation. De documentation des phénomènes qui finalement dont la connaissance reste assez floue, hein. La connaissance de ces pantouflages par exemple européens, effectivement, dans une large mesure on les connaît mal, et effectivement une partie du travail qu'elle fait, c'est effectivement un travail d'alerte bien sûr, de recommandation bien sûr, mais aussi de documentation et de connaissance en quelque sorte sur ces phénomènes de mobilité publique privée ou de conflits d'intérêts. Donc de ce point de vue là effectivement, elle est un peu, la déontologue en chef dans ce champ du pouvoir européen.
Didi Georgakakis, pour conclure, qu'est-ce qu'on attend de la nouvelle médiatrice de l'Union européenne ? Est-ce qu'a priori, elle aura les bras aussi libres et en même temps, dans le même temps, autant de contraintes que sa prédécesseuse ?
Je pense qu'elle... En effet, elle doit être sous pression de multiples égards. J'attire quand même votre attention sur le fait que, contrairement à ses prédécesseurs au pluriel, c'est la première fois que c'est une élue également. Certes, elle a une expérience de médiatrice, mais c'est une élue qui est aussi une élue appartenant au bloc majoritaire, et disons plutôt ultra-majoritaire aujourd'hui, à la fois au Parlement, au Conseil et à la Commission. Et donc, évidemment, que là, elle va avoir une grosse pression, parce que je pense qu'elle aura à cœur de montrer sa véritable indépendance, et je pense que ça fait partie des enjeux, précisément, de son mandat.
Eh bien, je vous remercie beaucoup, Didier Georgakakis, d'être venu en parler avec nous. On n'a pas eu le temps de parler des concours, du recrutement des fonctionnaires publics européens. C'est très intéressant de savoir aussi comment ils sont recrutés, les concours ont changé en 10 ans. Il y a plus, et vous expliquez dans votre avis, il y a plus ces sortes de QCM à la française dans des grands hangars vides sur les connaissances liées à l'Union européenne. Tout ça a bien changé. Il faut vous lire Didier Georgakakis, Au service de l'Europe, crise et transformation sociopolitique de la fonction publique européenne. Votre livre a paru aux éditions de la Sorbonne. Vous étiez en duplex avec nous depuis Bruxelles. Je remercie Pierre Benazet et merci beaucoup Antoine Vaucher, directeur de recherche au CNRS, au Centre européen de sociologie politique à Paris 1. Je rappelle le titre de vos derniers ouvrage coécrit avec Éric Monnet, L'Europe du marché à la puissance publique, et c'est paru au PUF. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Vous nous plongez ce matin, Catherine, dans l'enfer de la guerre au Soudan.
Avec de nouvelles exactions à caractère ethnique dénoncées par The Sudan Tribune, au moins 29 personnes ont été tuées par les paramilitaires des forces de soutien rapide et leurs alliés à El Fasher, capitale de la vaste région du Darfour dans l'ouest du Soudan. Les États-Unis accusent les paramilitaires de génocide, relève le New York Times, et l'ONU craint pour la sécurité des civils alors que les paramilitaires se préparent à lancer une offensive sur El Fasher, une ville de 2 millions d'habitants assiégée depuis mai 2024, rappelle The Sudan Tribune. Mais ces appels à la désescalade restent lettre morte dans ce conflit qui dure depuis avril 2023, rappelle la BBC, depuis que deux généraux, autrefois alliés, aujourd'hui rivaux, ont fait plonger le troisième plus grand pays d'Afrique dans un bain de sang. Des dizaines de milliers de morts et une famine tenace, la moitié de la population, soit 25 millions de Soudanais, ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence, alerte la BBC. Le viol reste une arme de guerre dans ce conflit, rappelle le média soudanais Radio Dabanga, et la plupart des cas n'ont pas été documentés ou enregistrés dans les hôpitaux, par sentiment de honte des victimes, mais aussi parce que 9 hôpitaux sur 10 au Soudan sont hors service, ajoute Radio Dabanga. Plus de 12 millions de personnes, indique la BBC, ont été chassées de chez elles par la guerre qui fait rage depuis bientôt 2 ans au Soudan.
Et lorsqu'ils émigrent, les Soudanais peinent à trouver un lieu sûr.
Plus d'un million d'hommes, de femmes et d'enfants ont fui vers le Soudan du Sud voisin, rapporte The Sudan Tribune. Mais les ressources de ce pays, en termes de logement, d'eau potable, de santé, sont épuisées, prévient la responsable locale de l'Organisation internationale pour les migrations. Et puis, c'est un véritable enfer que décrivent à la BBC des femmes soudanaises qui se trouvent aujourd'hui en Libye. Plus de 210 000 Soudanais y sont réfugiés. Enfin, réfugiés est un bien grand mot comparé aux atrocités dont les Soudanaises témoignent sous couvert d'anonymat auprès de la BBC. Ces femmes sont passées la plupart du temps par l'Égypte, le pays qui accueille le plus de Soudanais depuis le début de la guerre, note le magazine Egypt Today, avec 1 200 000 personnes qui y cherchent une protection. Mais le Sudan Tribune et Amnesty International dénoncent le traitement inhumain des forces de l'ordre égyptiennes, qui détiennent arbitrairement des Soudanais et des Soudanaises dans des entrepôts ou des écuries sans accès aux sanitaires, précise la Deutsche Welle, avant un retour forcé au Soudan, sans possibilité donc de demander l'asile. Quant à celles et ceux qui peuvent rester en Égypte, ces Soudanais sont souvent victimes de racisme, rapporte la BBC. Et puis, c'est une autre discrimination contre les populations noires, de l'exploitation au travail et des violences sexuelles qui forment cette fois le quotidien des Soudanaises en Libye. Salma raconte ainsi à la BBC comment elle et sa famille ont été enlevées par des trafiquants juste après avoir traversé la frontière libyenne, brutalisées, fouettées même, leurs ravisseurs leur demandaient de l'argent pour être libérées. Salma, elle, a été violée par plusieurs de ces trafiquants libyens. Elle a tenté d'avorter, mais il était trop tard, explique-t-elle à la BBC. Son mari l'a abandonnée avec leurs enfants, laissant donc toute cette famille soudanaise dormir à la rue en Libye, cherchant de quoi manger dans les poubelles. Les Soudanais qui vont donc de Caribe dans Silla. Ils sont des milliers en attente de venir aux États-Unis et ils voient leurs espoirs douchés aujourd'hui par les mesures anti-immigration décrétées par Donald Trump dès son retour à la Maison-Blanche, explique le Washington Post. Le président républicain a suspendu pour 90 jours toute arrivée aux États-Unis de clandestins et de demandeurs d'asile.
Les États-Unis vont d'ailleurs déployer 1500 militaires supplémentaires à la frontière avec le Mexique pour lutter contre l'immigration illégale.
Donald Trump prévoit même d'envoyer 10 000 soldats à la frontière sud, affirment le Washington Post et CNN, selon un mémo confidentiel que s'est procuré le Washington Post. Le ministère de la Défense envisage même de convertir ses bases en centres de détention pour migrants. Donald Trump, qui n'a donc pas dévié de son programme présidentiel pour lequel il a été élu, malgré l'appel à la compassion et à la miséricorde lancé mardi par l'évêque épiscopalienne de Washington, Marianne Budd.
In the name of our God, I ask you to have mercy upon the people in our country.
Au nom de notre Dieu, je vous demande d'avoir pitié des habitants de notre pays. Ils ont peur, que ce soit les enfants gays, les transgenres dans les familles démocrates, républicaines et indépendantes, a lancé Marianne Budd à 2 mètres seulement de Donald Trump. Il y a aussi les gens qui cueillent nos récoltes, qui nettoient nos immeubles, ceux qui travaillent dans les élevages de volailles, ceux qui lavent la vaisselle dans les restaurants, ceux qui travaillent dans les équipes de nuit des hôpitaux, ceux qui ne sont pas citoyens ou qui n'ont pas le droit de vote. Ils ont peur. Monsieur le Président, je vous demande d'avoir pitié, a déclaré Marianne Budd. Elle est woke, titre accusateur, le populiste New York Post. Pas question de m'excuser, a déclaré hier l'évêque épiscopalienne de Washington au micro de la NPR. Une séquence qui a inspiré le dessinateur Mike Lukovic dans les pages de The Atlanta Journal Constitution, un quotidien de Géorgie, état du sud des États-Unis. On peut donc voir Donald Trump avec sa version de la Bible entre les mains. Le président républicain se réjouit dans une bulle d'avoir enfin un exemple guerre qui ne fait pas référence à la gentillesse, à la tolérance, à la miséricorde ou à l'amour. C'est ce qu'écrit le dessinateur de presse Mike Lukovitch dans un dessin à voir sur la page internet de la revue de presse internationale.
Merci beaucoup Catherine Dutu. Et sur ce même sujet, Mélanie Chalandon recevra demain la journaliste Nejma Brahim de Mediapart, de retour de Californie auprès des migrants menacés d'expulsion. Un retour de terrain précédé ou suivi plutôt d'une table ronde d'actualité sur la menace de guerre commerciale entre les États-Unis et l'Union européenne avec Nicole Niesotto et Vincent Vicard. Dans un instant, les Midis de Culture.